Bonjour, merci d'écouter Radio Orient. Il est 17h, votre rendez-vous d'information. Au sommaire de ce point de l'actualité, Volodymyr Zelensky rencontrera les dirigeants européens à Washington avant de s'entretenir avec Donald Trump. L'Europe fait bloc derrière le président ukrainien Zelensky. Au Caire, le Hamas a reçu une nouvelle proposition visant à instaurer un cessez-le-feu à Gaza. Notre dossier du jour, le cabinet de sécurité israélien approuve le plan de Benjamin Netanyahou visant à prendre le contrôle de la ville de Gaza. Condamnation quasi unanime de l'Europe aux pays arabes. Le point de l'actualité avec vous, Souada Kermani.
Merci François-Xavier de Calonne. Nous commençons par l'Ukraine. Le président ukrainien rencontrera les dirigeants européens présents à Washington avant son entretien avec Donald Trump ce soir. Volodymyr Zelensky est arrivé ce matin à Washington. Emmanuel Macron sera également présent pour défendre les intérêts européens et apporter son soutien à l'Ukraine. Un rendez-vous décisif. Plusieurs dirigeants seront aux côtés du président ukrainien lors de cette rencontre, dont deux des trois membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni, ainsi que deux grandes puissances économiques, l'Allemagne et l'Italie. Emmanuel Macron demande à ce que les Européens soient présents au prochain sommet concernant l'Ukraine. Le président français a exprimé son intime conviction que Vladimir Poutine ne veut pas la paix. Pour Donald Trump, sur son réseau social Truth, Kiev doit renoncer à la fois à la Crimée et à son entrée dans l'OTAN. Et pendant ce temps, les bombardements se poursuivent. Une attaque aérienne russe a tué cette nuit 6 personnes à Kharkiv. Le Hamas a reçu au Caire une nouvelle proposition de cessez-le-feu à Gaza, incluant une trêve de 60 jours et la libération des otages en deux phases. L'Égypte se dit prête à rejoindre une force internationale sous mandat de l'ONU. En Israël hier, des milliers d'Israéliens sont descendus dans la rue pour réclamer la libération des otages et la fin de la guerre à Gaza. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou accuse la mobilisation de renforcer le Hamas. Gaza toujours sous les bombes. Bilan des frappes israéliennes ces deux derniers jours. 58 morts selon la défense civile locale. Et le bilan depuis le début de la guerre fait état de 61 944 morts. Le chef de l'armée israélienne a validé le plan de Benjamin Netanyahou pour un contrôle total du territoire avec des opérations concentrées sur la ville de Gaza. Nous y reviendrons dans votre dossier du jour. Israël va acheminer une aide humanitaire au Soudan du Sud. Cette annonce survient alors que des médias évoquent un possible plan israélien de transfert de Gazaouis vers ce pays, ce que Juba a fermement démenti. La diplomatie sud-soudanaise assure n'avoir engagé aucune discussion avec Israël à ce sujet. En Syrie, un nouvel attentat a eu lieu hier soir à Alep lorsqu'un kamikaze a déclenché sa ceinture d'explosifs. Aucune victime n'a été déplorée. Samedi, un attentat avait déjà eu lieu à Damas où une voiture piégée a explosé sans faire de victime. Et on reste en Syrie. Des centaines de personnes ont manifesté à Souaïda dans le sud du pays. Elles dénoncent les violences intercommunautaires du mois dernier et réclament l'autodétermination de cette province à majorité druze. Le président par intérim syrien Ahmed Al-Shara rejette l'unification par la force militaire et accuse Israël d'ingérence dans le sud du pays. Direction à présent l'Arménie où le président iranien Massoud Bezhestian est attendu ce lundi pour évoquer un projet de corridor proche de la frontière iranienne soutenu par les États-Unis. Téhéran, opposé à cette initiative, dénonce des ambitions hégémoniques américaines dans la région. L'Iran a mis en garde l'Arménie contre toute avancée du projet impliquant une présence étrangère jugée hostile à sa frontière. L'Espagne et le Portugal toujours en proie aux flammes et un bilan qui continue de s'alourdir. Deux pompiers morts au Portugal et en Espagne, six victimes au total dans la péninsule ibérique. Et le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez veut un pacte national face à l'urgence climatique. En France, dernier jour de canicule, de violents orages et une baisse des températures sont attendus. L'épisode de chaleur a reculé ce lundi et devrait se terminer en soirée. Le retour d'une goutte froide par l'ouest entraînera orages, fortes pluies et grêle. C'est la fin de votre point d'actualité et place à présent à votre dossier du jour.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Orient. Notre dossier du jour sur la situation à Gaza. Notre invité, le docteur Ronnie Broman, l'ex-président de Médecins Sans Frontières, reviendra sur le risque d'une catastrophe après la décision de Benjamin Netanyahou de conquérir Gaza. La bande de Gaza où Israël mène une campagne de famine délibérée selon l'ONG Amnesty International. François-Xavier de Calonne.
Oui, Nadia Bencher, l'ONU et de nombreuses ONG ne cessent de mettre en garde contre une famine imminente dans l'enclave palestinienne. Amnesty dénonce les exactions commises par Israël dans le but de créer, selon ses mots, une destruction physique. Elle affirme que cette campagne détruit systématiquement la santé, le bien-être et le tissu social à Gaza. L'Organisation de défense des droits humains a mené des entretiens avec 19 Palestiniens de Gaza qui vivent dans des camps de déplacés et deux membres du personnel médical traitant des enfants qui souffrent de malnutrition. L'ONG assure que les témoignages recueillis confirment que la combinaison mortelle de la faim et de la maladie n'est pas une conséquence malheureuse des opérations militaires israéliennes à Gaza.
Amnesty International avait accusé en avril les autorités israéliennes de commettre un génocide en direct à Gaza, allégation qualifiée de mensonge par le ministère des Affaires étrangères israélien.
Et oui, Israël a réagi en dénonçant des mensonges sans fondement, assurant notamment cibler exclusivement des terroristes et jamais des civils. Le pays qualifie Amnesty d'organisation radicale, anti-israélienne, mais Amnesty estime que la situation actuelle est le résultat intentionnel de plans et de politiques qu'Israël a conçus et mis en œuvre au cours des 22 derniers mois pour infliger délibérément aux Palestiniens de Gaza des conditions de vie calculées pour entraîner leur destruction physique. Et de son côté, l'ONU souligne que la bande de Gaza est totalement dépendante de l'aide humanitaire et menacée d'une famine généralisée.
Quelles sont donc aujourd'hui les perspectives de cesser le feu ?
Elles sont minces, très minces. Une délégation du Hamas a reçu au Caire une nouvelle proposition de cesser le feu dans la bande de Gaza. Elle prévoit une trêve initiale de 60 jours et la libération en deux étapes des otages. C'est ce qu'a indiqué ce lundi un responsable palestinien. Le texte reprend les grandes lignes d'une précédente proposition américaine. Les efforts des médiateurs, Égypte, Qatar, États-Unis n'ont jusqu'à présent pas réussi à aboutir à un cessez-le-feu durable.
Et en Israël, l'armée occupe ou opère au sol dans près de 75% de la bande de Gaza. Pourquoi ? Après 22 mois de guerre, Israël a décidé d'aller plus loin en occupant militairement la ville de Gaza, menaçant d'évacuer 1 million d'habitants vers des zones sécurisées, un exode risqué pour une population déjà fortement éprouvée. La proposition d'Emmanuel Macron de déployer une force de stabilisation sous mandat de l'ONU peut-elle être mise en place ? Cette proposition se heurte aux objectifs du Premier ministre israélien. Alors, comment analyser la décision du Premier ministre israélien de conquérir la ville de Gaza ? Je vous propose d'écouter à ce propos Ronnie Broman, ancien président et directeur d'études à la Fondation Médecins Sans Frontières.
Je ne crois pas à la mise en place autoritaire d'une autorité, quelle qu'elle soit. Soit elle est issue des rangs des Palestiniens, soit elle n'a aucune validité à leurs yeux. Mais ce que je vois, c'est que la politique coloniale se poursuit dans ses traits, avec ses traits les plus classiques, la verticalité, l'imposition des cadres, l'imposition des personnes. Et ça, l'histoire l'a montré, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et les Israéliens ne sont pas disons comme les Britanniques ou les Hollandais qui ont conquis l'Amérique du Nord avec une puissance de feu et un territoire immense qui leur permettait de repousser les Indiens et finalement de vaincre par la démographie.
Que pensez-vous de la proposition d'Emmanuel Macron de mettre en place une force de stabilisation à Gaza avec un mandat de l'ONU ? Est-ce que ça pourrait être une solution comparable à ce qu'on a vu par exemple au Cambodge ou au Timor oriental ?
L'expérience de ces déploiements de casques bleus est loin d'être entièrement négative, mais elle est à considérer avec une certaine prudence. C'est-à-dire dans les endroits où une paix, même fragile, a été signée, où les belligérants s'accordent sur le fait qu'il faut dépasser la situation de conflit armé pour s'acheminer vers un traitement politique du conflit, des accords. Là, les casques bleus, en tant qu'observateurs, en tant que garants d'un cessez-le-feu, peuvent jouer un rôle de stabilisation, en effet. Mais on ne stabilise que quelque chose qui a déjà atteint une certaine stabilité. Là, on est en plein déséquilibre. Il n'y a rien d'une situation stable. Il y a une immense fatigue de la guerre. Ça, c'est sûr, c'est peut-être le principal élément de stabilisation. L'immense fatigue, évidemment, comment serait-il autrement, du côté palestinien. Mais immense fatigue également du côté israélien, fatigue économique, mais fatigue physique aussi de la guerre. De plus en plus de réservistes refusent leur nouvelle convocation. Enfin, l'armée israélienne est en état moyen, ses équipements sont délabrés, enfin en tout cas très endommagés par l'usage intensif qui en a été fait. Bref, voilà ce que j'entends par fatigue. C'est, à mon avis, aujourd'hui, le seul élément qui concourt à la stabilisation, mais c'est bien peu pour parler d'une situation qui pourrait être confortée par un déploiement de casques bleus. Cela étant, peut-être ma vision est-elle un peu trop pessimiste, mais mon expérience des situations de maintien de la paix ou d'imposition de la paix m'amène à penser cette situation de cette façon-là.
Est-ce que vous placez beaucoup d'espoir dans la conférence qui est prévue à l'ONU le mois prochain, qui permettra de reconnaître l'État palestinien ? Il y a une forme de dynamique suite aux annonces d'Emmanuel Macron.
Oui, dans une certaine mesure, cette annonce de Macron a eu un succès qui, me semble-t-il, n'était même pas espéré à l'Élysée, enfin en tout cas qui n'était pas considéré comme certain, comme assuré à l'Élysée. Donc il a enclenché, sans doute parce qu'il y avait une configuration internationale, une situation sur le terrain qui était favorable à cela, il a enclenché une dynamique qui exaspère les Israéliens et les Américains, ce qui signifie donc qu'ils ont touché, là cette dynamique touche un point sensible. Et de fait, symboliquement, la reconnaissance par des pays membres du G7, par des pays membres du Conseil de sécurité, par des pays appartenant à l'Occident dit démocratique, tout cela a un poids symbolique qui fâche énormément, pour le dire poliment, qui exaspère, qui met en rage même les Israéliens, parce que, par exemple, leur appellation Judée-Samarie pour désigner la Cisjordanie, l'implantation de colonies répétées sera, à partir du moment où la reconnaissance de la Palestine sera accomplie, un acte d'occupation agressive hors de toute discussion. Alors que là, ça fait toujours, on parle de territoires disputés, de désaccords. Enfin, il y a une façon tout à fait cynique et malhonnête, mais enfin, qui a une certaine efficacité de discuter des questions d'occupation, d'autonomie, etc. Une fois la Palestine reconnue, les Palestiniens seront en droit d'exiger, d'exiger sans qu'il y ait de discussion possible. Ça ne veut pas dire que les faits suivront, mais ça veut dire qu'il n'y aura aucune possibilité de contester la revendication d'expulsion des colons, en tout cas de l'expulsion du retrait de l'armée d'occupation. Ça, c'est le minimum à demander. Et cette armée d'occupation sera aux yeux du monde entier une armée d'occupation, ce qu'elle est déjà, mais ce sera formalisé à partir du moment où la reconnaissance de la Palestine sera générale.
C'était Ronny Broman, ancien président et directeur d'études à la Fondation Médecins Sans Frontières, au micro de Loïc Barrière. Ronny Broman, invité ce lundi de Grand Angle, émission à écouter sur radioorient.com. C'est la fin de votre édition, merci d'y avoir prêté attention, merci à Mohamed Bezeré pour la réalisation. Excellente suite des programmes sur Radio Orient.